la santé, c'est l'affaire de tous.
Votre rendez-vous santé sur Phare FM Montauban, c'est maintenant. Sans plus tarder, j'accueille l'incontournable docteur Edmundo Pereira. Bonjour Edmundo, comment ça va aujourd'hui ?
Bonjour Laurent, ça va et toi ?
Ça va très bien, merci. Avec toi, le professeur Gilles Rioufol, chef de service d'hémodynamique et cardiologique interventionnel Hospice Civil de Lyon. Bonjour professeur.
Bonjour.
Edmundo, si tu me le permets, je vais en rester là pour les présentations. Messieurs, vous avez l'antenne.
C'est parfait. Merci beaucoup, Laurent. De toute façon, on va aborder un sujet très actuel et très important aujourd'hui. On va parler d'un cœur instable, des stents, de la cardiologie interventionnelle. Et il n'y a personne mieux que Gilles qui pourra nous éclairer. Gilles, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation parce que je sais que tu es quelqu'un de très pris. Ton temps est très précieux. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avant de commencer à aborder les questions, est-ce que tu peux te présenter ?
Oui, alors je suis cardiologue à Lyon. Et en fait, je fais une sur-spécialité de la cardiologie qui s'appelle la cardiologie interventionnelle. C'est-à-dire que ça regroupe toutes les techniques qui vont naviguer dans les artères coronaires ou dans le cœur en général, soit pour réparer des artères bouchées, c'est un peu le thème d'aujourd'hui, soit pour mettre des prothèses ou boucher des trous, par exemple. Donc tout ce qui est fait en cardiologie interventionnelle correspond à ce qui a été fait il y a encore 10, 20 ou 30 ans par le chirurgien cardiaque.
Et effectivement, on va déjà attaquer les questions parce qu'il y a beaucoup de questions. La première, c'est quoi un syndrome coronarien aigu ?
Alors, un syndrome coronarien aigu, en fait, même si le terme a l'air un peu compliqué comme ça, c'est assez simple. C'est l'ensemble des problèmes des artères coronaires qu'on peut présenter de façon brutale. Normalement, les artères coronaires, tu sais, c'est celles qui vont irriguer le cœur. Il y a trois grandes artères coronaires principales. Et si une artère se rétrécit et se bouche, à ce moment-là, on va avoir des symptômes. En principe, une douleur thoracique, on va pouvoir reparler un petit peu de ces symptômes, et qui correspond à une souffrance du cœur qui va manquer d'oxygène. Et si l'artère est complètement bouchée, on va avoir un infarctus. Et un infarctus est une des expressions des syndromes coronaires. Des syndromes coronaires aigus, c'est-à-dire justement qui tombent dessus à un moment donné, alors que la situation était stable et souvent des patients qui se plaignaient de rien jusqu'alors.
Et quels sont les facteurs des risques d'un syndrome coronarien aigu ?
Alors, le syndrome coronarien aigu, donc, c'est une artère qui va se boucher ou quasi se boucher. Et pour qu'une artère coronaire se bouche, eh bien, il faut qu'elle s'encrasse. C'est la meilleure image qu'on peut avoir, du fait notamment de l'âge, du cholestérol, du tabac, du diabète, de l'hypertension et de l'hérédité familiale. Et tous ces éléments-là, c'est des éléments qu'on connaît tous depuis longtemps, mais qui correspondent tous à des facteurs de risque cardiovasculaire. Et plus on a ces éléments-là, plus on va fumer, plus on va avoir un cholestérol élevé, moins on va faire de sport, plus le risque d'encrassement des artères, d'athérosclérose, pour reprendre le terme médical, va augmenter. Et à un moment, sur ces artères qui sont toutes encrassées, toutes irrégulières, il peut y avoir un caillot qui se met dedans. Et si le caillot se met dedans, bah, l'artère tout d'un coup va se boucher. Et là, c'est les pépins et c'est les gros symptômes, et notamment la douleur et l'infarctus.
Et on a parlé des facteurs des risques. C'est vrai qu'on cite souvent l'histoire de différence de sexe entre l'homme et la femme. Est-ce qu'une femme, elle peut avoir un syndrome coronarien aigu ? Et est-ce qu'il y a une différence de morbimortalité entre les hommes et les femmes quand ils ont ces types de pathologies ?
Alors, oui, les femmes ont aussi des événements cardiaques, des syndromes coronaires aigus. Les femmes aussi peuvent faire des infarctus. Alors, longtemps, on a un petit peu sous-estimé cette situation-là. D'une part, parce que tu sais que jusque vers 50 ans, les femmes sont protégées au niveau des artères du fait des hormones qu'elles ont. Et après la ménopause, justement, cette protection va disparaître. Ça, c'est un premier élément. Donc souvent, les dames ont des problèmes cardiaques un peu plus tardivement que chez les messieurs. Après, ça, c'est plutôt un élément dommage, mais les femmes fument plus qu'avant, fument de plus en plus. Et ça, c'est le facteur peut-être principal de risque. Et donc, en fumant, eh ben, elle rattrape les hommes. Donc, on a de plus en plus, proportionnellement, de femmes qui font des syndromes coronaires aigus.
Quels sont les facteurs au niveau héréditaire qui peuvent jouer? Par exemple, quelqu'un, mon papa a décédé d'un infarctus, c'est sûr et certain que j'aurai un infarctus. Ou est-ce que les facteurs causaux, comme tu as parlé, la question du tabac, du diabète, vont influencer? Comment on peut faire la part entre l'héréditarité et effectivement les facteurs environnementaux qui vont jouer dans le syndrome coronarien aigu?
Alors en fait, il y a un mélange des deux. C'est-à-dire qu'effectivement, si quelqu'un de la famille a fait un infarctus, mais qu'il fumait beaucoup, qu'il était hyper tendu, qu'il avait beaucoup de cholestérol parce qu'il faisait pas de régime, qu'il faisait pas attention à lui, c'est des facteurs plus personnels qui vont expliquer son accident cardiaque. Après, il y a des patients qui ont des artères plus fragiles ou plus susceptibles justement au dépôt de cholestérol, et ça, c'est souvent génétique. Et on n'a pas tous les mêmes artères, comme on n'a pas tous le même grain de peau. Et donc, il y a des familles qui, génétiquement, ont une fragilité artérielle et sont plus sensibles que d'autres aux facteurs de risque. Et plus sensibles que d'autres à ce que l'artère vieillisse et puisse faire des événements. Donc, il y a un mélange des deux. À ces autres éléments s'ajoute le cholestérol. Alors, tu sais, le cholestérol, on en parle beaucoup, beaucoup. Le cholestérol, ben, c'est le gras qu'on mange, mais c'est aussi du cholestérol qu'on fabrique au niveau du foie, parce que le cholestérol et les différentes sous-parties sont très très importantes pour le bon fonctionnement de l'organisme. Donc on a tous besoin de cholestérol dans l'organisme, mais quand il y en a trop, sous certaines formes, quand c'est des petites billes de cholestérol qu'on appelle les LDL, eh ben, ils ont tendance à se mettre dans les artères très facilement. Et il y a beaucoup d'enzymes, hépatiques notamment, qui normalement font une régulation de tout ça. Et si on a un problème génétique sur ces enzymes hépatiques, eh ben, on peut fabriquer beaucoup de cholestérol. Et donc, on a de gros, gros risques de faire des infarctus. Et tu sais qu'il y a une maladie qui est très grave, qui s'appelle l'hypercholestérolémie familiale, où on peut avoir des jeunes de 20 ans qui font un infarctus parce que depuis leur plus jeune âge, ils ont trop de cholestérol dans le sang et c'est un problème vraiment de génétique qui est la situation de départ.
Et Gilles, quelle est la capacité du cœur à se régénérer après un syndrome coronarien aigu, après un infarctus?
Eh bien, c'est bien toute la difficulté, toute l'urgence d'un syndrome coronaire aigu et de l'infarctus. Parce que donc l'infarctus, donc ce qu'on discutait il y a quelques minutes, c'est une artère du cœur qui va se boucher, en général parce qu'il y a un caillot qui vient s'y mettre, et ben cette artère, tout d'un coup, elle va plus délivrer de sang au muscle cardiaque. Et le muscle cardiaque va manquer d'oxygène. Et si ça dure trop longtemps, et ben il va mourir. Parce qu'il n'y a pas d'autre artère capable de compenser d'une façon ou d'une autre. Et donc, c'est effectivement une des urgences médicales les plus fréquentes actuellement, comme l'AVC, qui est la même chose au niveau du cerveau. Si on n'est pas capable de remettre de l'oxygène dans cette artère et remettre de l'oxygène pour que le cœur soit à nouveau perfusé, eh ben il va mourir. Et donc, la pompe cardiaque va perdre de ses capacités. Et on perd de la capacité de contraction et on perd de la capacité d'avoir un débit cardiaque qui augmente si on veut faire un effort. Et donc, le risque d'un syndrome coronaire aigu, un des risques, c'est qu'on fasse après ce qu'on appelle de l'insuffisance cardiaque, parce qu'on a abîmé le cœur à cause de ce syndrome coronaire.
On entend parler d'une dissection spontanée de l'artère coronaire. Est-ce que tu peux parler de ce type de pathologie? Est-ce que ça arrive souvent et quel est le traitement?
Alors ça, c'est quelque chose qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps. Parce que donc le mécanisme le plus majoritaire du syndrome coronaire aigu, c'est le caillot qui vient boucher l'artère. On en s'est aperçu, surtout chez des patients jeunes et surtout chez des femmes, hein, on parlait des femmes tout à l'heure, que l'artère coronaire peut, dans certaines situations, en fait, se fendiller et se disséquer. Donc elle va comme si elle se coupait en deux dans le sens de la longueur. Et à ce moment-là, c'est pas un caillot qui bouche l'artère, c'est la dissection qui vient empêcher le sang de circuler. Donc c'est une maladie de la paroi de l'artère qui est, qui est assez rare, hein, c'est peut-être 5%, maximum 10% de tous les syndromes coronaires aigus, qu'on va retrouver surtout chez les jeunes patients et surtout chez les jeunes patientes. Et donc, quand on a un syndrome coronaire aigu en urgence chez une jeune femme qui peut avoir 30 ans, qui peut avoir 40 ans, là, c'est très rarement l'athérosclérose et le caillot, et c'est beaucoup plus fréquemment cette dissection. Et c'est une maladie qui est grave parce que c'est compliqué à réparer. Donc, c'est assez bien traité un syndrome coronaire aigu classique avec les stents, on va en reparler. Mais quand c'est une dissection coronaire spontanée, c'est un diagnostic qui peut être difficile et c'est un traitement qui est très difficile.
Et dans la suite, effectivement, de ton explication, pour le traitement, quels sont les traitements possibles pour un syndrome coronarien aigu?
Alors, si on prend le prototype du syndrome coronaire aigu, qui est l'infarctus du myocarde, qu'on entend parler depuis toujours, donc la chose la plus importante, c'est de remettre de l'oxygène dans l'artère pour que le cœur arrête de souffrir. Donc, la règle numéro un, c'est d'aller vite et d'aller très vite. Chaque minute compte. Une minute d'artère bouchée va faire des cellules cardiaques qui vont mourir. Et donc, on sait que le plus tôt on débouche, le meilleur sera le pronostic pour le patient et le moins le cœur sera abîmé. Donc, le principe, c'est l'urgence. Et pour qu'on puisse traiter en urgence, il faut déjà que les patients appellent. Et ça, c'est vraiment l'élément peut-être le plus important de tout ce qu'on va discuter ce soir. Si le patient a des symptômes de syndrome coronaire aigu qu'il néglige, qu'il n'arrive pas à associer à un problème médical, eh ben, on ne pourra pas le traiter. Et c'est là où le cœur va s'abîmer, c'est là où il va y avoir des complications qui peuvent être dramatiques. Donc la première règle, c'est que les personnes qui ont une douleur thoracique qui va durer plus de 5 minutes, plus de 10 minutes, un type de serrage notamment, qui écrase la poitrine, c'est pas normal. Et donc il faut appeler les services d'urgence et il faut appeler le SAMU et expliquer la situation. Et là, il y a un médecin qui va venir, qui va faire un électrocardiogramme et qui va faire le diagnostic. À ce moment-là, la règle maintenant, la meilleure solution pour déboucher cette artère, c'est de faire ce qu'on appelle une coronarographie. Donc une coronarographie, c'est l'artériographie, c'est l'examen des artères coronaires, où on va directement aller voir toutes les artères les unes après les autres, en passant par l'artère du poignet en général, ça se fait sous anesthésie locale, et on va regarder toutes les artères, on va voir l'artère bouchée, et à partir de là, on a des tas de solutions techniques pour retirer le caillot, pour écraser le caillot, pour faire fondre le caillot, pour réparer l'artère en mettant le fameux stent dont on parlait. Mais il faut faire vite, et un infarctus qui est pris dans les deux premières heures après le début de la douleur a le maximum de chances que tout se passe bien et que le cœur ne soit pas abîmé et qu'il n'y ait pas des catastrophes qui arrivent derrière. Si ce même patient n'appelle pas, et le pire, c'est la personne qui dit « mais je ne voulais pas déranger », eh bien si, on dérange. Et si c'est 2h du matin, on dérange et on appelle le SAMU et on n'attend pas le lendemain. Si on attend le lendemain, eh bien le cœur sera abîmé et on aura passé et on aura raté les chances de bien traiter et de protéger ce cœur. Donc vraiment, vraiment, c'est la règle importante. C'est une urgence et on n'attend jamais. Et il faut qu'il y ait un médecin qui vienne, un médecin du SAMU, qui fasse l'électrocardiogramme, qui permet de faire le diagnostic et d'amener le patient en cardiologie interventionnelle, où là, justement, on a les outils pour traiter et déboucher cette artère.
Et si on regarde un peu le maillage de santé en France, avec ton expérience, est-ce qu'on peut dire que les Français sont bien couverts, c'est-à-dire que si on fait un infarctus, est-ce que je peux être pris en charge rapidement, proche de chez moi, j'aurai toujours un hôpital pour me prendre en charge?
Alors, c'est plutôt vrai. C'est-à-dire que on a l'énorme chance en France d'avoir un maillage, notamment en urgence, qui est très bien fait. d'avoir un maillage en cardiologie interventionnelle, puisqu'on parle de l'infarctus, qui est plutôt très bien fait. Et après, ben, entre l'ambulance ou l'hélicoptère ou d'autres techniques que gèrent les collègues du SAMU, on est capable, dans la majorité des cas, de pouvoir amener le patient, quand le diagnostic a été fait, jusqu'à une salle de coronarographie et de pouvoir prendre en charge l'infarctus. Alors, il y a quelques situations géographiques plus compliquées. Imaginez, vous êtes en moyenne montagne ou en haute montagne et qu'il y a le blizzard, l'hélicoptère, il ne va jamais arriver. Donc là, il y a des solutions, on va dire, plus anciennes qui correspondent à faire une dissolution avec des médicaments du caillotage, ce qu'on appelle la thrombolyse. Ça marche un peu moins bien que l'angioplastie, donc le stent et les examens de cardiologie interventionnelle, mais c'est toujours beaucoup mieux et ça a sauvé des milliers de vies plutôt que de ne rien faire. Donc, pour répondre à ta question, on a l'énorme chance en France par rapport à des tas de pays, même en Europe, d'avoir une densité de prise en charge de l'urgence et derrière de prise en charge de l'infarctus. Et c'est plutôt exceptionnel. On ne mesure pas au quotidien cette chance-là par rapport à des tas de pays qui ne sont pas si loin que ça de la France.
Et tu as parlé d'un sujet très intéressant, les stents, parce que effectivement, une majorité des patients qui bénéficient de ce traitement, je pense qu'ils n'ont pas vraiment la notion de quoi s'agit. Est-ce que tu pourras parler un peu à nos auditrices, nos auditeurs, de quoi s'agit un stent, comment il fonctionne, la durée de vie, donner simplement quelques concepts de base pour qu'on soit un peu plus informé.
Donc c'est un vrai développement ces dernières années où on est capable de diminuer en taille le matériel. Pourquoi ? Parce que tu te souviens qu'une artère coronaire, c'est un petit cylindre qui fait 3 mm de diamètre. Voilà. Et c'est ce 3 mm de diamètre où le caillot peut se mettre dedans et boucher. Donc c'est vraiment très petit. Quand on fait de la cardiologie interventionnelle, donc on fait passer des petits cathéters tout fins qui font 1,5 mm, 2 mm par les artères du bras et qui remontent jusqu'au cœur. Donc on arrive devant l'entrée des artères du cœur et on injecte de l'iode et on peut voir les artères. Et on voit l'artère quand elle est bouchée, on voit l'artère quand elle est rétrécie. Donc le traitement, ce qu'on se disait ensemble, c'est qu'il faut remettre l'oxygène. Donc on peut aspirer le caillotage, on peut écraser le caillotage, on peut faire fondre le caillotage avec des médicaments qu'on injecte directement dedans. Mais la paroi de l'artère, elle n'est pas tout à fait normale, puisque le point de départ, c'est de l'encrassement avec de l'athérosclérose, donc lié au tabac, lié au cholestérol, lié au diabète, etc. Donc il faut réparer cette artère. Donc réparer cette artère, c'est éviter qu'un rétrécissement revienne, parce que le rétrécissement, c'est le point de départ sur lequel le caillot va s'accrocher. Et ben donc la solution, c'est d'écraser cet encrassement et de remettre l'artère avec une lumière, donc c'est-à-dire son calibre à l'intérieur, qui soit normal. Et pour ça, imagine tout simplement ce que font les mineurs dans les mines. Dans une mine de charbon, on a tous les images où on voit des étais en bois qui sont là pour stabiliser la paroi, éviter que le plafond leur tombe dessus. Un stent, c'est la même chose, c'est un étai. Mais simplement la taille de l'artère, donc c'est-à-dire 3 mm. Donc c'est un petit grillage. Donc vous prenez, par exemple, si tu veux refaire ta clôture, tu sais, tu prends du grillage en croisillon. Quand il est tout enroulé l'un sur l'autre, en très très gros, ça ressemble à un stent. Et donc le but de la cardiologie interventionnelle, c'est de pouvoir glisser ce tout petit ressort, ce tout petit étai, qui est au début tout fin parce qu'il est écrasé sur un ballon, d'arriver à se mettre à l'endroit où il y a le rétrécissement, de gonfler le ballon et ça va déployer le stent et qui va faire un grillage qui va stabiliser la paroi de l'artère pour éviter qu'elle s'effondre quelques heures, quelques jours, quelques mois plus tard. Et donc, ça remet un débit dans l'artère qui est normal. Et à partir de là, les choses sont stabilisées.
Et on parle souvent des stents, ça va être un peu précis, mais pharmaco-actives, non pharmaco-actives. Est-ce qu'il y a une durée de vie qui est différente? Est-ce que par rapport au patient en soi, il y a un bénéfice de poser un ou l'autre? Qu'est-ce que guide le cardiologue à faire le choix? Est-ce que tu peux toucher deux, trois mots sur ce sujet?
Alors ça, maintenant, les choses sont assez simples, mais ça a été les grandes questions des 20 dernières années. Parce qu'on s'est aperçu, donc déjà, le développement du stent a été une révolution. Et juste pour le petit clin d'œil, le premier cardiologue qui a mis un stent, c'est un Français. C'est un Français de Toulouse qui s'appelait le professeur Puel. Donc, Toulouse, c'est pas très loin de chez toi.
Non, on est à côté, oui.
donc, c'est effectivement le professeur Puel qui a le premier au monde osé mettre un ressort, un grillage dans une artère coronaire d'un patient, 3 mm de diamètre, et ce qui a permis d'améliorer le suivi, le pronostic de tous ces patients. Donc ça, c'est la première étape. Après, on s'est aperçu que l'artère, elle allait faire une sorte de cicatrisation autour de ce petit ressort, qui est une sorte de corps étranger, si tu veux. Donc, il y a toujours une réaction de l'organisme qui va développer un système pour essayer d'englober le ressort et que ce soit pas libre avec le sang. Et donc, de temps en temps, cette cicatrisation, elle était trop forte. Tu sais, des fois, quand on se coupe, il y a des patients qui vont faire une cicatrice toute fine et de temps en temps, il y a des patients qui font une cicatrice un peu toute boursouflée, qu'on appelle kéloïde. Et ben, il y a des patients au niveau des artères coronaires qui faisaient une cicatrisation trop forte et en faisant une cicatrisation trop forte, ça recréait un rétrécissement de l'artère. C'est ce qu'on appelait la resténose. Donc, c'était pas de l'athérosclérose, c'était pas lié au cholestérol, c'était lié à la cicatrisation qui était un peu exubérante. Et donc, quand on a compris ça, il y a eu des années de développement pour essayer de bloquer ce mécanisme biologique. Et les mécanismes ont pu être bloqués grâce à des médicaments qu'on enduisait sur le stent. Et ces médicaments étaient là pour éviter cette cicatrisation trop forte, pour éviter cette resténose. Et donc, c'est de là que sont nés les stents pharmaco-actifs. Donc, c'est un stent en métal. Et dessus, c'est enduit de médicaments pour éviter que la cicatrisation devienne trop forte. Donc, il y a eu 20 ans de développement. Maintenant, 99,9% de tous les stents posés en France sont des stents pharmaco-actifs.
C'est vrai que c'est un sujet très intéressant. Le temps passe tellement vite qu'on ne s'y rend pas compte. Est-ce qu'il y a un sujet particulier que tu souhaites aborder, qu'on n'a pas discuté, que tu penses que c'est important dans la compréhension de ce sujet? C'est vrai qu'on n'a pas parlé de traitement anti-agrégant, de l'estatine, des choses comme ça. Déjà, est-ce que tu peux toucher Et dans l'avenir, qu'est-ce qui sont les médicaments dans l'avenir que, au niveau de développement à Lyon, par exemple, les choses que vous faites qui vont aussi faire bénéficier les patients après un infarctus?
Alors, avant d'aborder ça, je pense qu'il y a quand même un message qu'il faut qu'on redise tous ensemble et qu'on n'oublie jamais de redire, c'est ce qu'on appelle la prévention. Pour éviter un infarctus, pour éviter que le cœur s'abîme ou même qu'il y ait une mort subite, on a parlé de l'insuffisance cardiaque, mais un infarctus sur deux n'a pas le temps d'appeler, n'a pas le temps d'arriver à l'hôpital et meurt de ce qu'on appelle de mort subite. Donc le meilleur traitement pour éviter tout ça, c'est éviter que l'athérosclérose se développe. Et donc ça va passer par ne pas manger trop salé, ne pas manger trop gras, surveiller son taux de cholestérol, faire du sport, et puis traiter si on a du diabète, traiter si on a de la tension, et ne pas fumer. Dès la première cigarette, on augmente son risque de faire un infarctus. C'est pas à partir de 10 cigarettes, 20 cigarettes, à partir de 20 ans de tabac. On sait, et ça y est, des études qui ont été faites dans le monde entier, en prenant des Américains, en prenant des Anglais, des Français, des Allemands, des Indiens, des Japonais, tous les pays du monde entier, on s'est aperçu que dès la première cigarette, le risque de faire des pépins cardiaques augmentés. Donc la première façon de traiter l'infarctus, c'est d'éviter qu'il arrive, et donc c'est de vérifier avec son médecin que le cholestérol soit pas trop haut, de faire un régime si on a des règles diététiques qui sont pas impeccables, de surveiller qu'il n'y ait pas de diabète, de contrôler la tension, de pas fumer, de faire du sport, c'est la meilleure façon d'éviter les pépins. Après, ben, quand on arrive au moment de l'infarctus et qu'on a pu déboucher l'artère, on a mis le stent, comme ça l'artère est stabilisée et le sang circule à nouveau, et ben, parce qu'on a mis un stent et parce qu'il y a eu un problème d'infarctus, il faut éviter que du caillotage revienne. Et pour que le caillotage ne revienne pas, il faut mettre des traitements de la famille de l'aspirine, ce qu'on appelle les antiagrégants. Et donc, pourquoi on a besoin d'antiagrégants quand il y a eu un infarctus ou quand on a des problèmes d'artère coronaire? C'est parce que, ben, on a parlé du caillotage qui arrivait. Et ben, le caillotage dans les artères, c'est pas tout à fait le même que le caillotage quand on fait une phlébite, par exemple. Quand on fait une phlébite, on met un traitement anticoagulant. Quand on fait un caillotage dans les artères, le point de départ qui fait ce caillot, c'est les petites plaquettes. Donc, c'est des tout petits éléments du sang qui vont s'accrocher les uns aux autres et qui, quand ils sont tous excités ensemble, vont développer le caillot. Et donc, l'aspirine, même à dose très petite, 75 mg. Tu sais, quand t'as un mal de tête, tu prends un gramme d'aspirine. 75 mg, c'est des doses bébés. Mais les doses bébés sont suffisantes pour ralentir ou éviter que les petites plaquettes s'excitent les unes des autres. Et donc, ça protège contre un risque de caillotage et ça protège contre un risque de refaire un pépin cardiaque. Donc ça, c'est vraiment important. Au tout début d'un infarctus, on met un cousin germain de l'aspirine en même temps. Et après, au long cours, on laissera que de l'aspirine. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et c'est ça qui évite de refaire des pépins. Après, on parlait du cholestérol. Et on parlait notamment, on avait revu le problème de l'hérédité. Et ben, donc il y a des patients qui ont trop de cholestérol et pourtant ils font le régime. Et pourtant il n'y a pas d'erreur à ce niveau-là. Et ben, c'est leur foie qui fabrique le cholestérol. Donc il y a des traitements. Et des traitements qui sont fondamentaux, qui ont sauvé des milliers de vies. Les premiers d'entre eux, vous les avez tous entendu parler, c'est les statines. Et les statines, quand on a eu une histoire cardiaque, c'est fondamental. N'écoutez pas ce qu'on a pu entendre dans la presse à différents niveaux. Les statines sauvent des patients cardiaques. Et maintenant, on va aller dans le futur qui est déjà là depuis quelques années. Là encore, parce que génétiquement, on a tout un système d'enzymes qui ne marchent pas tous les mêmes. Il y a une enzyme au niveau du foie qui s'appelle la PCSK9. Ça, c'est les nouveaux traitements du cholestérol. Et ben, quand on a trop de PCSK9, on a trop de cholestérol, même si on prend la statine. Et on a découvert des anticorps qui sont capables de bloquer cette PCSK9. C'est les anti-PCSK9. Et ben, anti-PCSK9 plus statine font baisser le cholestérol à un niveau très bas et très protecteur. Et c'est des traitements simples à mettre en place. Que les anti-PCSK9, c'est des petites injections qu'on fait en sous-cutané tous les 15 jours ou tous les mois. Très simple à faire, c'est le patient qui fait ça tout seul. Et bien, quand les statines ne sont pas suffisantes, ou quand on ne supporte pas bien les statines, et bien, il y a les PCSK9 qui maintenant sont développés. Et là encore, parce qu'on est en France, on est capable d'avoir l'accès à ce type de traitement. Et maintenant, c'est les bonnes façons de pouvoir protéger contre les rechutes. Parce que quand il y a eu un pépin cardiaque, qu'on est arrivé à sauver le patient, que le cœur n'a pas été abîmé, eh bien, on veut éviter la rechute. Eh bien, la rechute, c'est je ne fume pas, je fais baisser mon cholestérol avec les statines, avec les anti-PCSK9 et je prends des anti-agrégants comme de l'aspirine.
Parfait Gilles, très 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 intéressant. Malheureusement, c'est vrai que le temps a volé là aujourd'hui. Est-ce que, avant de finaliser l'émission, tu as un message, un dernier message? C'est vrai que tu as donné des informations très 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 importantes, mais un message à passer, qu'est-ce que tu peux laisser à nos auditrices, à nos auditeurs?
Alors, je pense que le message principal, c'est si une personne présente une douleur thoracique, une douleur dans la poitrine, qui est inhabituelle, qui arrive sans rien faire, une douleur qui est forte, qui serre, qui écrase, n'attendez pas, appelez les services d'urgence, parce que là encore, si c'était un infarctus, il faut le prendre en charge immédiatement, sinon on perd du temps et puis on perd des chances Et c'est vraiment le plus dommage. Après, c'est le tabac. Je crois qu'il faut qu'on soit clair. En 2023, le tabac et les coronaires, c'est vraiment deux mondes qui sont absolument opposés. Le tabac, c'est le facteur qui fait que des jeunes patients peuvent faire ce qu'on appelle une mort subite, c'est-à-dire un infarctus qui est fatal en quelques heures ou en quelques minutes. Donc là encore, c'est l'élément où on doit tous être ensemble et lutter contre cet élément-là parce que c'est un fléau et il n'y a rien de pire de prendre en urgence un jeune patient de 30 ans qui fume un paquet par jour et qui arrive avec un arrêt cardiaque parce qu'il a fumé. C'était le seul facteur de risque qu'il avait.
Parfait. Un grand merci, Gilles, pour toutes ces explications. Merci pour ton temps. Les portes de l'antenne sont toujours ouvertes. Un grand merci à toi et merci aussi.
Merci, Edmundo.
Merci, tu es toujours le bienvenu. Laurent, on te passe l'antenne.
Merci beaucoup. Merci, professeur Rioufol, d'être passé sur Phare FM pour nous parler de la cardiologie interventionnelle. Alors, si vous désirez réécouter ou partager cette émission, elle est disponible en podcast sur notre site www.pharefm.com, rubrique La santé, c'est l'affaire de tous.